Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International. Après tous ces matchs de Ligue des Champions et certains extrêmement spectaculaires, mais à Lille, pas de miracle pour les Lillois qui devront se contenter d'un match nul obtenu contre le FC Séville. Les Dogs du LOSC ne sont pas éliminés, certes, mais après trois matchs nuls, la situation se complique. Les premiers points pour le Barça, vainqueur du Dynamo de Kiev. Un seul but a suffi, signé Gérard Piqué. Mais ce match ne rassure pas sur le jeu des Catalans. Manchester United l'emporte grâce à un but de Cristiano Ronaldo. Les joueurs de l'Atalanta peuvent être très déçus de ce résultat 3-2 à Manchester United. Plein de buts aussi, on vous en parlera avec le Bayern Munich, avec Villarreal. Mais nous évoquerons aussi les matchs de demain soir, ceux de Ligue Europa qui concernent trois clubs français. Les deux Olympiens, l'OM qui jouera contre la Lazio à Rome alors que l'OL jouera à Prague. Et puis Monaco qui ira du côté des Pays-Bas à Eindhoven. Le procès de la vidéo intime concernant Valbuena et Benzema a commencé aujourd'hui à quelques encablures de Paris à Versailles. Quelles conséquences pour ces deux joueurs? Eh bien, nous retrouvons notre débat de la première partie de Radio Foot International. Pour l'instant, dans ce studio, il y a Shérif Guémour. Bonsoir Shérif.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Merci d'être là, ainsi que David Lortolari. Salut David Lortolari.
Bonsoir Annie, bonsoir Shérif, bonsoir à tous.
Un fidèle au poste en cette soirée. Et puis en rythme, eh bien, je vous le dis aussi, hein, il ne faut pas qu'on s'endorme. Cédric de Oliveira est là et nous attend du côté de Lille au stade Pierre-Mauroy. David Finzel est là, il veille avec toute l'équipe ainsi que Laurent Salerno, Radio Foot. C'est parti. Une si belle musique pour donner de l'allant aux joueurs. Mais il ne s'est rien passé sur la pelouse. Enfin si, il s'est passé des choses sur cette pelouse de Lille. Mais malheureusement, pour ce qui est des Lillois qui espéraient une victoire, une première victoire dans cette compétition, eh bien, ils devront se contenter d'un match nul. Et je dirais nul jusqu'au bout puisqu'il y a eu zéro but. Cédric de Oliveira, bonsoir.
Bonsoir Annie, bonsoir tout le monde.
Ah, vous n'avez plus de voix quand même, il s'est passé des choses.
Cédric. Oui, bon, on a quand même vibré il y a eu des choses, il s'est passé beaucoup de choses quand même.
Oui, malheureusement, hein, on a toujours cru qu'ils allaient réussir à conclure leurs actions. Écoutons d'abord, donnons la parole au capitaine de cette équipe, le défenseur José Fonte en fin de partie et qui résume assez bien ce qui s'est passé sur cette pelouse ce soir.
Ça manquait un peu de justesse pour le dernier passe, pour créer des occasions. La première mi-temps, on a un bon occasion avec Renato. On n'a pas marqué, mais on continue. On a trois matchs encore. Il faut continuer à se battre pour se qualifier.
Il faut continuer à se battre. Alors certes, ils ont trois points, donc théoriquement, ça pourrait toujours passer si les choses s'améliorent. Mais Cédric de Oliveira manquait juste.
Lille a deux points. C'est Séville qui a trois points.
Pardon, excusez-moi. Oui, ils ont une défaite et un match nul, donc ça fait deux points. Quand ils disent ont manqué de justesse, malheureusement, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'actions, de belles actions. On a beaucoup vu Ilmaz tenter. On a beaucoup vu aussi des choses intéressantes de Renato Sanchez. Mais au final, malheureusement, il n'y a pas de concrétisation.
Oui, il y a manqué de justesse, mais il y a aussi manqué de beaucoup de choses. Parce que face à une équipe de Séville qui, elle, a eu la domination technique, surtout, fallait s'y attendre. En fait, cette équipe de Séville, elle est vraiment très, très à l'aise. Elle est très difficile à bouger. Et surtout, il y a des joueurs de grande classe. Il y avait Souzo, il y avait Lucas Ocampos, Fernando, Oliver Torres. Des joueurs qui sont capables de faire tourner ce ballon, en tout cas plus que les Lillois. Rakitic qui est rentré, lui, en seconde période. En tout cas, les Lillois, eux, ben, ils ont proposé un peu ce qu'ils proposent depuis le début de la saison, c'est-à-dire d'essayer d'aller vite vers l'avant. Mais il y avait une formidable organisation côté sévillan qui a empêché justement ces transitions. Et finalement, Lille n'a eu qu'une vraie occasion, c'est ce face-à-face de Renato Sanchez avec Yacine Bounou. Sanchez qui a récupéré ce ballon un petit peu par miracle. C'était une mauvaise relance de la part des sévillans, donc c'est même pas une action construite de la part des Lillois. Ce ballon, cette action du Portugais qui a été vraiment la seule principale menace pour les Lillois. Vous parliez de Burak Yılmaz, il s'est beaucoup démené, le Turc, c'est vrai. Ouais. Voilà, il a beaucoup décroché à droite, à gauche, mais peut-être pas dans le registre là où il est le plus performant. Ça a été difficile d'aller le trouver. Jonathan David, on en parlait avec Naïm Moniol pendant la retransmission de cette rencontre. Il a touché 7 ballons pendant la première période. C'est beaucoup trop peu pour un attaquant pour aller marquer des buts. Et finalement, 0-0, ils s'en sortent bien les Lillois, puisque Séville, ils ont eu plus d'opportunités, même s'il n'y a pas eu de vraies actions, en tout cas d'actions franches. Il y a eu quand même des frappes d'Ocampos, des frappes de Rafamir, des opportunités. Je pense que Ivo Gerbic est sans doute le Lillois avec José Fonte qui a fait la plus belle prestation de cette partie. Mais je pense que la frustration, elle vient surtout du côté andalou de ne pas avoir gagné cette rencontre.
Oui, certainement. On va y venir, mais pour l'instant, Chérif Guémour, c'est vrai que Cédric dit qu'ils s'en sortent bien. On avait déjà ressenti ça à Wolfsburg.
Il y a pas l'étincelle, il y a pas la folie. On en parlait, c'est sans saveur. Ça n'encaisse pas, mais ça marque pas. Alors on va rappeler quand même que c'était pas le grand Séville, l'équipe A. Hein, c'était plutôt l'équipe A prime parce qu'il y avait quand même les Rakitic, Ramela et Papu Gomez qui étaient pas titulaires. Pour ne citer que ces groupes-là,
ils étaient quand même des blessés.
Voilà, ils étaient quand même à domicile devant 50 000 devant une grosse affluence. Il y a rien qui les motive, et surtout il y a pas d'occasion et il y a pas de temps fort. Et on peut au moins attendre ça d'une équipe qui joue
par moment. Et puis
ça s'emballe. Mais
juste en fin de match, il y a eu vraiment ces 10 dernières minutes.
Comme contre Wolfsburg.
Un petit peu emballé.
Comme contre Wolfsburg, parce qu'on est à la fin du match et que bon, c'est un peu le baroud d'honneur et qu'on. Mais surtout, il y a pas de temps fort. Une équipe qui est pas capable d'imprimer un temps fort, ne serait-ce que pendant 10 minutes, c'est une équipe qui n'arrivera pas à faire la différence. Après, on va pas parler non plus du manque de vitesse dans les mouvements, dans les transmissions, de l'imprécision dans les passes. Il y a trop de manque dans cette équipe de Lille. Je dis pas qu'ils sont éliminés, mais il y a trop de manque.
David Lortolari.
Après, on aura peut-être un jugement un peu dur parce qu'on n'est pas sur le terrain à faire les efforts face à une équipe de Séville, Annie, qui a quand même comme qualité depuis des années d'être difficile à jouer, d'être difficile à surprendre. Mais quand même, j'ai trouvé de la timidité par moments. J'ai trouvé des actions qui n'étaient pas poussées à leur terme. Alors peut-être que ça rejoint ce que dit Chérif sur le fait de pas réussir à créer des temps forts. Et puis j'ai retrouvé, moi, je sais pas quelle sensation vous avez pu avoir au stade, j'ai retrouvé des points commun évident, éclatant par rapport au dernier quart d'heure contre Wolfsburg où on se dit il y a peut-être la place de faire quelque chose, ils sont peut-être en train de prendre un peu le dessus, d'avoir une possession territoriale, d'avoir le ballon, et puis finalement le danger il est diffus, il est pas flagrant, il n'y a pas de vitesse, il y a pas de... Ça pousse, oui,
c'est toujours la même chose.
Si vous poussez une voiture à pied, vous n'allez pas aller vite.
Elle va avancer, mais...
Cédric.
C'est plutôt juste ce que dit David, effectivement. Il y a toujours en fait un quart d'heure par-ci, 10 minutes par-là dans les matchs de Ligue des Champions. Même à Salzbourg, Lille a perdu à Salzbourg, mais a eu des temps forts.
C'était mieux.
Mieux. Voilà, il y avait un petit peu plus d'agressivité, un petit peu plus de maîtrise aussi. Voilà, ouais. En tout cas des intentions et. En tout cas, c'est trop peu par rapport à des équipes qui, elles, maîtrisent plus leur sujet. Ce soir, Séville, c'est au-dessus, ça se voit. Et Chérif le disait, il y avait encore des joueurs qui étaient sur le banc, qui étaient même pas titulaires. Je pense que ce soir, si En-Nesyri est titulaire, Séville gagne parce que il est beaucoup plus efficace, en tout cas, devant le but que ne peut l'être Rafamir. C'est sur ce qu'a montré Lille ce soir, en tout cas ce 0-0, c'est presque un bon résultat, même si encore une fois, si on veut aller loin dans la compétition, on peut pas se satisfaire d'un 0-0 devant son public, quel que soit l'adversaire.
Oui, et résultat, vous le disiez donc tout à l'heure, cette équipe n'a que 2 points, le FC Séville est devant lui, il en a 3, et Salzbourg qui a gagné son match, Salzbourg du coup, il se retrouve premier du groupe, ils ont gagné 3-1 sur Wolfsburg justement. Et ça prédit un match retour à Séville très compliqué pour Lille.
Ouais, et puis alors Salzbourg,
avec
c'est
trois derniers matchs, hein, David.
C'est les ingrédients inverses, c'est-à-dire qu'il y a, il y a de la vie, il y a de la vivacité, il y a de l'improvisation, il y a aussi de la, une forme de virtuosité, c'est vrai. Peut-être que pour exister en Europe, on a vu ce soir, on va faire le tour un petit peu des buteurs. Il y a quand même beaucoup de joueurs connus pour leur capacité à être décisifs qui ont marqué. Et côté Salzbourg, il y a ces joueurs-là. Alors c'est parfois des très jeunes comme Adeyemi, mais c'est le petit geste qu'il faut, le petit contrôle juste, et puis le juste ce qu'il faut pour faire la différence face à l'adversaire. Un adversaire qui a proposé de la bouillie, en l'occurrence ce soir Wolfsburg, clairement. Et Lille contre Wolfsburg, vous vous souvenez, c'était quand même pas bien emballant, quoi. Hein.
Et Chérif, quand je parle de match retour, parce que là ça se joue sur la journée 3 et 4,
Lille
ira jouer à Séville.
Et
à Séville, on imagine mal Lille faire du mal à Séville sur son propre terrain.
En tout cas, il montre la même chose que ce soir. Pardon. Oui, c'est sûr que voilà. Excusez-moi.
C'est juste.
Oui, si c'est ce genre de prestation qu'il y aura à Sanchez-Pizjuan, il y aura pas grand-chose. Il y aura pas un résultat positif, en tout cas, parce que il y a de fortes chances que Séville, qui est sous pression aussi, parce que
ils sont sous pression là ce soir,
parce qu'il y a 3 points en 3 matchs, c'est pas non plus un très très beau bilan pour une équipe qui était censée être favori du groupe.
Et Chérif, qu'est-ce qu'il y aurait de positif que vous avez vu avec cette équipe de Lille? Parce que tout à l'heure, avant la soirée, on parlait de Lille-Clermont, de Clermont-Lille d'ailleurs. Est-ce que vous avez vu des signes encourageants pour se dire, Lille a encore des raisons d'y croire?
Alors, des raisons d'y croire mathématiques, parce que personne ne gagne, à part Salzbourg. Mais après, pour le reste, on peut faire entrer n'importe quel joueur, faire entrer Ikoné. Les joueurs qu'on fait entrer, de toute façon, n'apportent pas grand-chose parce que ça reste figé. Il n'y a pas Botman derrière, donc ils ont perdu un peu de leur force défensive qui fait qu'ils ont été champions. Mais surtout, on sent pas, on a changé d'entraîneur, on a gardé la discipline et l'abnégation, mais ça ne suffit pas. Il faut de la folie, il faut que ça pétille. David nous parlait de Salzbourg, c'est exactement ça. Ils sont jeunes, ils sont insouciants, ils n'ont rien à perdre. Quitte à perdre, autant attaquer. Et là, ça reste discipliné. On reste dans le 4-4-2. On joue énormément sur Yilmaz. Yilmaz, il va pas porter l'équipe pendant 6 matchs, c'est pas possible. Et on reste sur ce schéma-là. Bamba a perdu de sa folie, Ikoné a perdu de sa folie, Renato Sanchez s'énerve parce qu'il est remplacé. Mais il arrive de blessure, donc il va pas jouer 90 minutes. Et surtout, on voit aussi cette apathie en championnat. En championnat, ils ont perdu 1-0 contre Clermont, c'est ça, ce week-end, sans rien montrer. Il y avait une victoire contre Marseille, on s'est dit tiens, ça repart. Donc je vois pas. Par contre, je les vois pas finir dernier avec 3 points, mais c'est mal engagé.
Merci beaucoup Cédric De Oliveira pour votre débrief, on va dire, d'après match.
Il n'y a pas eu beaucoup de buts, je pense que vous avez plein de choses à dire. Il a eu beaucoup plus de buts ailleurs. Sur les terrains européens.
C'est vrai.
Ça sera pour la prochaine fois.
On a eu beaucoup de choses ailleurs, on avait un peu l'œil sur les autres matchs et c'est vrai que ça s'animait plus sur les autres pelouses. Merci beaucoup Cédric De Oliveira et bonne fin de soirée.
À bientôt.
Côté de Lille. Merci. On va continuer alors les amis, et on va continuer parce qu'on va s'intéresser. Ils ont joué en première partie de soirée. Il s'agit du FC Barcelone. Parlons de ce FC Barcelone qui devait gagner et qui a remporté cette première victoire en Ligue des Champions. Ils étaient à 0, le FC Barcelone. Je crois que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas vu ça après 2 matchs. Ils l'ont remporté face au club suédois de Malmö. C'était peut-être prévisible. Et pourtant, on va y venir.
Chelsea contre Malmö à Nice. Barça, c'était Dynamo Kiev.
Dynamo Kiev. Et devant son public au Camp Nou, ils ont remporté cette victoire sauvée par un but. Recupera Busquets. Toca la parada para Jordi Alba. Por arriba el centro de Guta. Piqué. Gol! FC Barcelone Dynamo de Kiev 1-0. C'est maigre quand même, Chérif Guémour.
C'est très maigre, c'est très plat, c'est électrocardiogramme plat. Mais là, Donc voilà, on rappelle, hein, 1-0, donc c'est les anciens qui ont fait la différence, un centre de Jordi Alba pour la tête de Piqué, donc de on reste dans le truc. Après, pour le reste, on comprend pas que Ansu Fati, qui pète le feu, ne commence pas le match, et Luc de Jong, mais je comprends, parce que bon, on veut gagner des duels de la tête, et Luc de Jong, mais déjà, il a la tête dans le sac, c'est pas possible. Et ensuite, il y a des trucs beaucoup plus inquiétants, c'est ce qui faisait la force, on le dira jamais assez, ce qui faisait la force du Barça, c'était leur jeu collectif, il est complètement dilué, enfin, ils l'ont perdu en partie. Le pressing et le contre-pressing qui faisaient aussi leur force, on s'installe dans le camp adverse, on porte le danger, on maintient la pression, ça a disparu. Et surtout, alors là, c'est le pire pour l'équipe du Barça, c'est que à chaque fois que le porteur du ballon, bah, il est en possession du ballon, justement, il y a plus de solution autour de lui. J'ai vu Gavi, quand il joue en équipe d'Espagne, voilà, il y a des, ça bouge autour de lui. Donc on peut... Et là, il récupère le ballon, il lève la tête et il y a personne. Et c'est toujours, toujours comme ça. On n'a plus de référent. Bon, Messi est parti. On jouait quand même beaucoup sur lui. Donc là, on se rabat un peu sur Depay, mais Depay, c'est pas Messi. Et puis, voilà, quoi. Le porteur du ballon n'a pas de solution. Donc, c'est poussif. Ils ont marqué. Mais ils ont que marqué. Après, le reste du temps, c'est la bouillie.
Et pourtant, cette équipe, justement, avait récupéré Ansu Fati, qui les avait bien aidés le week-end, ouais. Au cours du week-end, face à Valence. Il y a aussi Agüero, qui est rentré en cours de match et tout. Et malgré tout, on a l'impression que ils sont pas rassurants, ce FC Barcelone.
Chérif a livré un diagnostic d'une équipe malade, d'une équipe embourbée. Je sais que vu d'Ukraine, on ne se faisait aucune illusion sur le devenir du Dynamo Kiev dans ce groupe-là. Et même dans le match de ce soir. Et pourtant, il y avait presque quelque chose à attraper sur un match comme ça. Je sais qu'on va en dire un mot après, mais quand on met en parallèle la prestation du Benfica pendant une heure,
ouais.
Après on peut parler du détail plus tard, mais la prestation du Benfica pendant une heure, l'intensité, le fait que...
Il y a une identité au Benfica.
Il y a une identité.
Ça joue,
avec
parfois, c'est visible.
Avec des grands anciens, ouais, parfois un apport aussi de joueurs un peu moins connus.
Et ils avaient battu le FC Barcelone là-bas à Lisbonne, 3-0.
Je pense justement, Annie, que le Benfica sent que sa chance pour se qualifier, c'est cette saison, dans un groupe dense quand même, et que pour le Barça, ça va être infernal. En conservant les mêmes ingrédients, en conservant les mêmes équipes de départ et cet encéphalogramme dont parle le shérif, si ça devait passer pour le Barça, ça va passer précisément par plusieurs exploits. Donc c'est quand même très compliqué cette saison.
Alors écoutons justement l'entraîneur de cette équipe, le néerlandais.
C'est toujours Koeman.
Ronald, c'est toujours lui. Ronald Koeman, lui, il compte les points.
On a 3 points, Kiev en a 1, ça dépend du résultat de Benfica. Benfica on les jouera à domicile, il y aura également un match à Kiev, on pourra totaliser 6 points, donc bien sûr on a notre destin entre nos mains.
Ils ont encore leur destin entre leurs mains, mais ils ont des sacrés matchs en perspective, parce que match retour à Kiev... Et ensuite, enfin le match qu'ils iront jouer à Kiev. Et ensuite, eh ben il faudra rejouer et le Bayern qui leur avait mis.
Je crois que c'est le dernier match, ce match-là, mm-hmm. contre le Bayern.
Il y aura Benfica avant.
Peut-être une petite marge, Annie, pour le Barça. Si le Bayern était déjà qualifié, assuré d'être premier, peut-être que ça peut donner un match un peu bizarre et un Barça qui pourrait prendre des points sur ce match-là. Mais ils partent de loin en tout cas. Hein.
Mm-hmm. Il y a encore le match à Kiev. C'est pas un grand Kiev non plus. Hein. C'est pas le.
Donc quelques
bons joueurs quand même. Mais
voilà. C'est peut-être l'occasion.
Pour le moral, s'ils arrivent à prendre 3 points à Kiev, ça en fera 6 et après ça redeviendra jouable sur un seul match. Ce sera leur finale. De toute façon, ce sera contre Benfica.
Mais, oui.
Mais bon, sur ce qu'on a vu de la valeur de Benfica et du Barça, ça va être dur. C'est bon. Attendons de voir déjà ce qu'ils vont faire à Kiev.
En tout cas, à noter avant qu'on passe à Benfica Bayern Munich, Ansu Fati, le néo numéro 10 de ce Barça, puisque c'est lui qui a hérité du maillot de Messi, eh bien il vient de prolonger son contrat dans
Absolument.
Ce club jusqu'en 2027 avec une clause libératoire, les fameuses hein, en Espagne, d'1 milliard d'euros.
Oui.
Mais on en reparlera dans Radio Foot demain. Continuons justement sur ce match un peu fou Benfica Bayern Munich. Ça s'est terminé sur un 4-0. 4-0 et David Lortolari, ils ont le premier but, C'est le roi Sané sur coup franc, absolument magnifique. Et il intervient à la 70e minute. Oui. Ce qui veut dire qu'effectivement, les Portugais ont craqué en fin de match, oui. mais qu'au début, ils l'ont... Ils les ont bien, ils allaient souvent eux aussi, ils ont essayé de,
les ont bougé.
De marquer, ouais. ils les ont bien bougés.
J'ai essayé de trouver la raison principale. J'ai cette thèse que le Benfica se dit. Alors déjà, il y a l'expérience de Jorge Jesus déjà sur le banc, qui a quand même
l'entraîneur,
a vu d'autres,
bien sûr.
Voilà, qui a beaucoup voyagé, qui connaît les footballs du monde entier. Bon, ça c'est un premier point. Mais surtout, je pense par rapport à ce que décrit Chérif sur l'état de maladie, l'état maladif. Chétif du Barça de actuel, peut-être que le Benfica se dit c'est le moment. Et effectivement, d'entrée de jeu, alors il y a des actions bavaroises, il y a un très bon gardien dans les buts du Benfica à Nice, mais il y a aussi tout ce qu'il faut dans un match de Ligue des Champions du côté du Benfica. L'impact, l'intensité, proposer un peu de folie avec les joueurs offensifs. Moi, j'ai été agréablement surpris par ce Benfica-là. J'ai essayé de me renseigner aussi en communiquant un petit peu avec les confrères qui suivent le Benfica. Eux sont moins surpris que moi qui les vois jouer pas forcément à tous les matchs. C'était fort, ça a craqué allez, dans le dernier tiers du match, parce que le Bayern, définitivement, faudra qu'on en parle un mot aussi, est quand même impressionnant. Mais ce Benfica-là, va falloir se le farcir pour le Barça. Ça va être la finale du groupe pour Barcelone. Très, très compliqué.
Mmh, certainement. On va écouter Kingsley Coman, le joueur français de cet effectif du Bayern Munich, eh bien, se satisfaire de la prestation de ses camarades ce soir.
On a tout donné depuis le début et à la fin, on a gagné, c'est le plus important. Je pense que le résultat, il est juste. On a eu beaucoup d'occasions, ils en ont eu aussi, mais on a poussé tout le match et on a profité quand ils ont un peu lâché. Dans notre tête, on est toujours favori, on veut toujours la gagner. Ce qui est sûr, c'est qu'on va tout donner pour gagner, mais on sait que c'est vraiment pas facile.
Il le dit, hein, on a profité quand ils ont un peu lâché. Kingsley Coman, il n'a pas marqué ce soir puisque les buts sont de Sané, Lewandowski, doublé de Sané. Et puis il y a un Cebolinha, le joueur d'en face qui a marqué
malheureux,
contre
oui.
son camp, malheureusement.
Oui, Kingsley Coman, c'est bien de l'écouter parce qu'il y a une très grosse concurrence avec Sané qui retrouve la confiance, mm-hmm. qui redevient un joueur magnifique.
Qui trouve surtout
cette constance qui est si rare. Alors, on pense parfois à cette pandémie depuis 2 ans et on se dit, c'est normal que les joueurs individuellement et que les collectifs soient pas en confiance. Lui est en train de retrouver ça et c'est magnifique pour son Bayern. Coman fait face à une forte concurrence. Il revient bien. Il a livré, de mon point de vue, son meilleur match ce soir. Il n'a pas un grand passé dans cette saison, mais c'était intéressant. Et c'est aussi par cet apport permanent de ces joueurs virevoltants en attaque, avec Gnabry aussi, qu'on avait repéré avec mm-hmm. Chérif pendant la soirée, mm-hmm. qui fait que l'adversaire, au bout de 60-70 minutes, commence à perdre un peu la tête et physiquement, ça ne suit plus. Et le Benfica, à 2-0, craque complètement.
On a aussi vu un grand... Manuel Neuer ce soir, toujours aussi impérial dans ses buts, Chérif.
Voilà, ils sont bons, comme on dit, pour gagner des titres, il faut être bon aux deux extrémités, c'est-à-dire le numéro 9 et le gardien. On retrouve le grand Neuer, mais c'est des vrais arrêts, attention, hein, c'est pas des...
Complètement.
Donc, qui maintient aussi un peu le Bayern à flot. Mais bon, on pense que même mener 1-0, le Bayern aurait fini par gagner. Mais quand on Neuer retrouve... retrouve vraiment parce que voilà il y a 2 arrêts à faire et sur les 2 arrêts il est décisif. Voilà, on va aller à l'essentiel,
ouais.
On demande à un gardien d'être décisif, pas d'être bon
comme Navas avec le PSG ou Lloris par
Absolument.
Exemple durant la Ligue des Nations.
2 petits éléments Annie, peut-être pour compléter très rapidement pour bien avoir à l'esprit en vue des derniers matchs du groupe qui vont être décisifs, notamment pour le Barça. L'entraîneur Nagelsmann restait à l'hôtel parce qu'il était souffrant. Peut-être que c'est aussi pour ça que le Bayern a un petit peu tâtonné au début. Et puis l'absence de Goretzka, qui est ce milieu à tout faire aussi, qui était mis au repos ce soir. Sabitzer est un super joueur, l'international autrichien, mais il y a peut-être un peu moins d'automatisme. Ça peut expliquer peut-être aussi qu'il ait fallu plus de temps pour que le Bayern soit à plein régime.
En tout cas, le Bayern, 3 matchs, 3 victoires, et il a ses 9 points. Et du coup, ça lui permet peut-être de voir l'avenir dans la compétition assez tranquillement. Et c'est ce qu'a dit Benjamin Pavard.
On a vraiment une équipe très complète. Voilà, on est fort dans toutes les lignes. Et voilà, on joue plutôt bien en ballon, on défend aussi plutôt bien. Donc voilà, on est une équipe complète et il faut continuer comme ça. Chapeau à cette équipe de Benfica qui a fait vraiment un très bon match. Ils ont eu beaucoup d'occasions aussi, nous aussi on en a eu. Voilà, ils ont été poussés par leur public qui ont fait beaucoup de bruit ce soir. On a été tueurs dans la zone de vérité au bon moment. Et après, ça, on a vu qu'on a enchaîné très vite. Donc c'est bien, il faut continuer comme ça. Et voilà, il faut vite se reposer parce qu'il y a des matchs qui arrivent prochainement.
Eh oui. Pavard titulaire hein, ce soir.
Oui, beaucoup de supporters sont critiques vis-à-vis de son apport parce que c'est pas Lizarazu, parce que c'est pas Willy Sagnol, parce que c'est pas forcément le joueur qui laissera la plus grande empreinte dans les latéraux au Bayern. Néanmoins, il a quand même beaucoup de vaillance, il a quand même, de mon point de vue, un mental très fort. Et puis, c'est un joueur qui...
Certaines constances.
Oui, exactement. C'est pas forcément, encore une fois, la machine à centrer dont on pourrait rêver, mais c'est un joueur qui compte dans un collectif et il a aussi l'avantage de pouvoir jouer à plusieurs postes de la défense. Pour un entraîneur, c'est précieux.
De toute façon, quand tu as la confiance de Flick et Nagelsmann, oui. Tout est dit. Moi, je comprends pas. Il est plus en difficulté en équipe de France, mais c'est un autre débat.
Alors, on continue, on reste sur la Ligue des Champions et on va passer au match renversant quand même de la soirée. Il s'agit d'un certain Manchester United, Atalanta-Bergame, avec un Manchester United qui a fini par s'imposer. Et c'était un match de dingue, on va dire, puisque l'Atalanta Bergame a commencé par l'emporter. Première mi-temps, elle menait cette Atalanta Bergame par 2-0. Et ensuite, les mancuniens sont revenus, Chérif Guémour.
Bah, il y a les deux facteurs. Alors, le premier, c'est ce manque de mental de l'Atalanta qu'on avait connu déjà dans le... Il y a deux ans, quand ils avaient joué contre Paris. Tout d'un coup, ça s'écroule. En championnat d'Italie aussi, ça leur arrive de perdre le fil, soit match après match ou à l'intérieur d'un match, c'est ce qui leur arrivait. Ils menaient 2-0 en deuxième mi-temps, ils ont reculé dans leurs 25 derniers mètres, tous les 11, il n'y en avait même pas au moins un en pointe. Donc là déjà, on se met en difficulté, à force de reculer, on se fait toujours punir. Et de l'autre côté, bah il y a Manchester United, la mystique, c'est-à-dire les grandes soirées européennes, quand même, avant de mourir, on va quand même tout donner, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont revenus à 3-2. Et puis
Pogba n'était pas titulaire au départ, mais il le fait rentrer
Il le fait rentrer en cours du match, mais ils avaient déjà commencé à remonter. Et c'est surtout, on a eu la preuve que les joueurs n'ont pas lâché l'entraîneur. Solskjaer est en grande, grande difficulté. Et c'est dans ces matchs-là, comme on l'a vu avec Didier Deschamps dans la Ligue des Nations, et des fois les entraîneurs sont en grande difficulté, ils sont sauvés par les joueurs, donc le courant en passe. On va pas dire que Solskjaer est sauvé indéfiniment, mais les joueurs ont pris sur eux de renverser la vapeur. On va pas parler du phénomène Ronaldo.
Je vais en dire un mot, moi.
Tu vas en dire un mot, tu vas en dire un mot, mais c'est surtout ça, c'est la réaction. Et donc voilà, mais très très déçu quand même par le mental de l'Atalanta.
Ouais. Bah oui, qui s'est écroulé. Alors l'Atalanta, c'était...
Et qui s'est remis à jouer quand il était mené 3-2.
Ouais. Pazalic et Demiral qui avaient marqué en première mi-temps, donc 2-0 à la mi-temps. Et puis Rashford, hein, qui avait dit « je veux être meilleur » et qui revient lui aussi d'une longue
bien
blessure.
Bien sûr, il revient.
Rashford a marqué le premier but. Ensuite,
Maguire,
défenseur, incroyable. Et puis, cerise sur le gâteau, parce que c'est le but de la victoire, une tête... Ouais. Comme d'habitude, en Suisse.
Qu'on a vu arriver.
Un but
qu'on
à la Cristiano. Ouais.
Oui. Il est fort. Il est quand même, avec sa dimension athlétique, il est fort de la tête. Je vais enfoncer trois portes ouvertes à Nice. La première, c'est Cristiano Ronaldo peut être décisif dans les moments importants. Et c'est effectivement.
Et il continue à l'être.
Et cette tête, smatchée, piquée, qui vient en plus au ras du poteau juste où il faut. Quand on est mené 2-0 et qu'on s'appelle Manchester United, c'est pas fini. Parce que 2-0, bah, vous revenez à 2-1 dans la tête de l'adversaire, il y a peut-être une faiblesse.
Il y a un Fergie time.
Oui. Et puis ce que Chérif décrivait là, nous n'étions pas dans le vestiaire, donc nous ne savons pas si c'est le fait de Solskjaer, si c'est le fait des joueurs eux-mêmes qui sont quand même responsables au premier rang des chefs Pogba, au premier rang desquels Pogba. Il y a une réaction à la pause. Mauvaise première mi-temps, des commentaires mortifères de la part des confrères qui suivaient le match aussi à la pause. Et puis derrière, grosse réaction de Manchester et ça suffit pour gagner.
On continue. Alors, dans ce même groupe, ajoutons Villarreal face aux Young Boys à Berne. Villarreal s'est imposé sur le score de 4-1. Là, c'est sans grande surprise.
Ils ont déroulé, Ils ont déroulé. Pas en difficulté, non.
Ça s'est aussi décanté en fin de match. Il y avait 2-1 longtemps. Les Young Boys sont poussés pour revenir à 2-2 et puis Villarreal s'envole sur la fin.
Exactement. Une petite parenthèse sur Manchester United. On va écouter l'entraîneur de cette équipe, Solskjaer, le Norvégien, parler de Cristiano Ronaldo.
Oui, il est très fort devant le but. Il a été critiqué pour cette attitude. Il faut juste regarder ce match. Ça dit tout. Il fallait que nous marquions le prochain but. Tant qu'on ne prenait pas de but, j'étais assez sûr que nous pouvions remporter le match. On a eu des occasions dans la première période. C'était juste le fait de les convertir.
Ouais. Alors évidemment, merci Cristiano Ronaldo aussi pour Maguire.
Ouais, c'est
pour
l'entraîneur. C'est un apport évident. Alors même si c'est sur une heure de match, même si c'est ici en fin de match, l'apport de Cristiano Ronaldo, je crois que personne va le contredire. Mm-hmm. Enfin, ouais. va le contrarier.
Et on avait l'impression qu'ils s'entendaient pas trop, mais là finalement ils se sont réconciliés sur l'autel de cette victoire Manchester United à Atalanta-Bergame. On continue, eh bien, avec les tenants du titre, parce que eux aussi, ils marquent, ils ne s'arrêtent pas de marquer, une énorme victoire de Chelsea. The color. Et oui, et il y avait beaucoup de bleu d'ailleurs hein, sur cette pelouse chez Xavier Mour.
Du bleu foncé contre du bleu clair.
Ouais, hein, c'était pas simple, mais bon, quand même. Donc là, c'était Malmö, l'équipe suédoise, et on a eu un 4-0 de la part des Blues.
Alors, ouais, c'est pratiquement bon, un tunnel. On va revenir quand même sur le coup dur.
Le coup dur d'entrée,
c'est la blessure de Lukaku, qui a été pris.
Blessé sur une cheville.
Ouais, sur une cheville. Ça avait l'air sérieux, mais bon, visiblement, il arrivait un peu à s'appuyer dessus. Donc, on va attendre un peu
Il n'a pas voulu prendre de risque.
Ouais, voilà,
face
c'est ça.
À Malmö, il s'est peut-être dit que ses camarades s'en sortiraient.
Voilà, Chelsea s'est repris. Alors, la petite parenthèse, enfin, le petit coup projecteur sur Jorginho qui met un doublé
sur penalty.
Qui met deux pénalties. Donc, il se replace dans la course au Ballon d'Or. N'oubliez pas que le scrutin s'achève ce week-end et tout ce qui peut servir les Benzema, les Lewandowski, les Jorginho, qui a gagné à la fois l'Euro et la Ligue des Champions.
Ouais.
Ils ont déroulé sans trop de problèmes. Mm-hmm. Pas grand-chose à dire.
Ouais. 4-0.
Ils ont marqué très tôt en plus. Donc.
Alors, face à Malmö, bon, c'est peut-être pas si significatif que ça, mais en même temps, on a l'impression que cette équipe est toujours extrêmement bien en place.
Oui, avec quand même des solutions assez variées. Il y a une forme de gestion. Alors, c'est dur de dire ça, mais on est dans ce football de maintenant où 4-0 contre Malmö, ça paraîtra normal à plein de monde. Mais il y a une marge, une gestion et encore une fois des solutions variées. On espère pour les deux attaquants qui sont sortis prématurément que ça ira mieux vite. Parce que spécifiquement, là, justement, on a l'exemple type. Lukaku, c'est un profil très particulier. Meilleur que jamais pour ce qui le concerne. Werner qui pourrait tourner autour de lui aussi, je veux pas donner de leçons à un coach comme Tuchel, mais ça peut être aussi une idée, apporte tout à fait autre chose. On n'a pas de raison d'être inquiet pour ce Chelsea pour le moment dans cette campagne.
Et Kai Havertz a marqué en
plus. Il a remplacé justement Lukaku et effectivement il est auteur d'un but juste au retour de la mi-temps. Dans ce groupe, il y a aussi la Juventus de Turin. Elle a mis du temps, mais à l'italienne, elle a inscrit son but 86e minute.
Oui, et on voit l'entraîneur sortir.
Pardon,
Annie. On voit l'entraîneur de la Juve sortir. Presque penaud à la fin du match vers le vestiaire dans le couloir on a l'impression que le message qu'il envoie aux télé et aux spectateurs c'est bon ben on l'a fait à l'italienne un peu rabougri mais on a gagné on va pas en rajouter quoi. C'est un peu le message qui a été envoyé. Ah pff, c'est pénible à regarder quand même encore hein.
Le Zénith à Saint-Pétersbourg et il y avait tout le monde. Chiesa était là, il y avait l'équipe de la Juve. Bon, elle a gagné, elle ramène victoire.
Ils ont bien poussé. Il y a pas énormément d'occasions mais ouais. Ils ont bien poussé. La victoire est logique. Attention, elle n'est pas belle, mais elle est logique.
Mmh, exactement. Efficace. La Juventus, 3 matchs, 3 victoires. Ils sont premiers de leur groupe avec 6 points, alors que Chelsea est juste derrière avec... la Juve, 9 points et Chelsea, 6 points. Le Zénith Saint-Pétersbourg et Malmö qui en a 0. Voilà pour ce qui est donc de cette Ligue des Champions et de la soirée. Je vous propose qu'on se projette un petit peu, c'est sur les matchs de demain, parce que demain, il y a des matchs qui concernent encore les Français, et notamment en Ligue Europa, 3 clubs français sont concernés. On va commencer par l'OM. Les Marseillais, ils sont déjà à Rome, dans la capitale italienne, où ils joueront demain contre la Lazio de Maurizio Sarri. Après 2 matchs nuls pour les Marseillais, décidément, c'est dur sur la scène européenne pour Marseille, mais Jorge Sampaoli, c'est qu'une victoire à Rome, ramenée de Rome, permettrait eh bien, d'espérer de continuer dans cette compétition.
On connaît tous le potentiel de la Lazio de Rome, mais on connaît aussi le nôtre, celui de l'Olympique de Marseille. On est venu ici pour gagner, pour nous qualifier. Face à une équipe qui a une grande histoire et de très bons joueurs, je pense que le match sera bien entendu très disputé, compliqué et certainement d'un très haut niveau.
L'OM. Alors l'OM sort d'une victoire contre Lorient, qui était plutôt pas mal shérif, ouais. Au Vélodrome, dans un scénario qui était assez renversant. Est-ce que c'est une énergie qui va leur donner de l'allant pour parce qu'on a vu des belles choses aussi dans cette équipe de Marseille. Ouais. Est-ce que là, à Rome, ils peuvent espérer quelque chose face à la Lazio?
En tout cas, ils sont sur une séquence vraiment enthousiasmante, emballante, parce que bon, évidemment, il y a le match de la Lazio et ensuite il y a le match contre Paris.
Oui, ils attendront et le PSG.
C'est les deux tests qu'on attend enfin sur ce début de saison de Marseille. C'est là qu'on va vraiment jauger un peu leur capacité. Ils retrouvent Milik, donc devant. Maintenant, ils ont un vrai numéro 9. Il y a plus de faux numéro 9 et tout. Là, il y a un vrai numéro 9. Il y a une concurrence qui est en train de s'installer. On rappelle que Harit n'était pas titulaire dimanche. Donc, il y a tout pour s'exalter. Il y a tout pour faire quelque chose. Et il y a vraiment ces deux grands rendez-vous. Et dans le contenu, Marseille n'avait pas été si décevant que ça. Donc, il n'y a pas de raison que ça se passe mal à la Durham. En tout cas, c'est premier gros test demain. Ouais. Qu'on attend avec impatience.
David. Il y a deux aspects qui me viennent à l'esprit, Annie. Le premier, c'est que là, on est sur un fondamental de la Coupe d'Europe, c'est-à-dire que Shérif a cité quelques joueurs essentiels. Ce sont ceux-là qui doivent être décisifs. Encore une fois, sur tous les buteurs de ce soir, reprenez la liste. Vous allez trouver
Ils sont tous là.
Pour l'OM, c'est ça. C'est l'avant-centre, c'est Payet, les joueurs importants qui doivent porter cette équipe, qui doivent faire la différence. Ouais. Et puis le deuxième point important, c'est évidemment de savoir un peu aussi dans les esprits, dans les têtes, sans parler des supporters et de l'entourage de l'OM qui est toujours emballant, quelle va être la priorité aussi entre cette mission-là européenne et la mission du dimanche.
David, c'est Marseille. Il y a une mystique de la Coupe d'Europe. Je dis pas qu'elle est égale à celle du Real Madrid, hein, mais ou du Bayern, par exemple, ou de Liverpool. Il n'y a pas de choix. Ils vont jouer les deux. Moi, j'en suis sûr. Ils vont jouer les deux. Et quand on connaît Sampaoli, par exemple, prenons un Gerson qui est en difficulté. Si jamais il joue, il n'a pas intérêt à se rater.
Un petit mot aussi sur l'OL. L'OL qui est à Prague. Les Lyonnais sont leaders de leur groupe. Hein. Eux, ils ont remporté déjà 2 victoires contre Glasgow Rangers, on s'en souvient, et à Brøndby. Ils joueront leur dauphin, le Spartak Prague, avec leur atout majeur, et on l'a vu au cours du week-end, c'est le Brésilien Lucas Paqueta. Son entraîneur Peter Bosz est plutôt admiratif.
Lucas, c'est un joueur, c'est un bon joueur avec une bonne technique, mais qui porte aussi quelque chose d'autre, qui, à mon avis, est très important pour avoir du succès. Ça, c'est un état d'esprit d'un vainqueur. Et voilà, tout le monde, ils ont vu. Il était dans l'avion. Il a joué dimanche pendant la nuit. Mais il voulait absolument être dans l'équipe et aider si possible. Et il a nous aidé parce que sa rentrée, c'était très important pour nous.
Paqueta, l'élément essentiel évidemment qui peut tout lancer dans cette équipe.
Oui, et puis avec les bons ingrédients pour Lyon cette saison, c'est un groupe qui est calibré pour eux, c'est une équipe qui a un vécu en Ligue des Champions par le passé, et puis un entraîneur, Shérif déplorait tout à l'heure la timidité de certains, là on a un entraîneur qui va prendre les risques qu'il faut pour pousser Lyon et se qualifier.
Monaco, pour terminer, dans un groupe compliqué, jouera à Eindhoven.
Déplacement délicat, difficile et pas évident pour une équipe qui doute comme Monaco. Donc ils ont gagné petitement contre Sturm Graz. C'est petit, ça manque de souffle ce Monaco. Je suis un peu inquiet. Je dis pas qu'ils vont perdre, pas de pronostic, mais Eindhoven est une bonne équipe.
De toute façon, les troisième journée, là, c'est un peu le moment où toute cette équipe se révèle. Et donc, ça sera très important.
Ce serait temps pour Monaco.
Hein. Oui, il serait temps, effectivement.
En championnat, c'est pratiquement râpé. Attention pour le podium. Hein. Je suis un peu inquiet pour Monaco.
Très compliqué. Pour terminer ce Radio Foot International, on va revenir sur un sujet qu'on a traité en première partie de cette émission. Un sujet assez peu glorieux, c'est celui du chantage à la vidéo intime entre deux joueurs qui étaient internationaux alors en 2015 sous le même maillot de l'équipe de France. Il s'agit de Valbuena et Benzema. Un procès s'est ouvert ce matin à Versailles, pas très loin de Paris, et qui concerne notamment deux joueurs de football qui se retrouvent face à face. L'affaire de cette vidéo intime où Mathieu Valbuena était victime de chantage et où Karim Benzema est accusé de complicité de chantage et donc devant les juges après des mois et des mois d'enquête, puisque l'histoire, hein, si je ne me trompe pas, date de 2015.
Oui.
L'ancien Marseillais s'est présenté ce matin au tribunal. Écoutons Mathieu Valbuena.
Aujourd'hui, ça fait 6 ans qu'on a cette affaire. Je constate que tout le monde est là, presque. C'est-à-dire qu'il manque Karim. C'est dommage, mais c'est comme ça. Nous, on va jusqu'au bout et ça fait 6 ans qu'on attend cette affaire. Que ça soit derrière moi. Et on est là jusqu'à le temps qu'il faut pour finir que tout cela soit derrière moi.
Et oui, il le regrette, Mathieu Valbuena, le joueur du Real Madrid n'est pas là, mais il a marqué hier avec son équipe,
oui,
c'était à Donetsk.
Il joue en Ukraine quand même.
Voilà, et il ne s'est pas donc présenté, mais ses avocats sont là. Et il n'était pas obligé en plus de se présenter. En tout cas, il est en pleine rédemption sur le plan sportif. Parmi les supporters, j'aurais deux interrogations. Est-ce que ça peut nuire à Karim Benzema pour ce qui est un peu de sa rédemption? Et on l'a vu avec l'équipe de France, en Ligue des Champions, à l'Euro, tout ça. Mais surtout, d'abord, parlons de Mathieu Valbuena. C'est lui qui avait perdu le plus dans cette affaire, selon vous, Dominique. C'est l'impression qu'on a, et c'est ce qu'on sent un petit peu dans ce côté, je ne dirais pas revanchard, mais en tout cas vouloir que la justice éclaircisse tout ça du côté de Mathieu Valbuena.
C'est arrivé quand il était joueur de Lyon. Et donc Lyon, c'est la ville de Karim Benzema. Il est né à Bron, dans la banlieue de Lyon. Donc, déjà, c'était le pire endroit pour lui. Et après, c'est un joueur qui surperforme en équipe de France. Il n'avait pas forcément un niveau exceptionnel, mais à chaque fois qu'il allait en bleu, Mathieu Valbuena, il était très très bon. Et donc, c'est depuis, il n'est jamais revenu. On sait que l'histoire, on connaît.
Alors qu'il est théoriquement la victime de cette histoire.
Et on connaît la suite de l'histoire. Benzema, lui, est revenu. Bon, après, moi, je comprenais pas pourquoi un joueur qui avait une affaire privée. Qui mettait pas en cause le maillot tricolore, même s'il y a une partie de l'histoire qui se déroule à Clairefontaine.
Effectivement.
Mais vous voyez, il y a d'autres joueurs, par exemple, qui sont condamnés pour violence conjugale, ce qui me semble beaucoup plus grave, et qui continuent à porter le maillot d'équipe de France.
Lucas Hernandez.
Et il y en a d'autres.
Kurzawa.
Il y en a eu d'autres. Ouais. Et donc ça me dérange beaucoup plus. Parce que pour moi, quand on porte le maillot de l'équipe de France, on reprend des valeurs de partage, d'amitié, de fraternité, et on tape pas sa femme, par exemple. Et en revanche, avoir des comportements délictueux qui relèvent du chantage ou de la tentative de chantage, ou ça c'est pas que ça me paraît pas grave.
Complicité.
Pour Benzema, c'est ça qui lui reproche. Ça me paraît pas être c'est une affaire privée. Un peu sordide, un peu cracra, pas terrible, pas digne d'un joueur du Real Madrid.
Difficile à comprendre parce qu'il y a eu un déballage.
Lui, il arrive au troisième rideau, Karim Benzema, parce qu'il y a d'abord d'autres personnes. Donc c'est pour ça
qu'on a l'impression.
Mais si la responsabilité elle est avérée, on verra. Mais sa place dans l'histoire, elle reste mineure dans une affaire judiciaire. Ce qui ne veut pas dire.
Oui, parce qu'il y a quatre personnes qui là sont accusées directement.
C'est pas le maître chanteur, quoi.
Voilà, c'est pas lui qui a voulu racketter de l'argent pour faire simple, quoi. Voilà.
Non, lui, il a voulu faire le gentil, plus ou moins.
Faire l'intermédiaire.
Alors, si c'est vrai, parce que, enfin, de toute façon, il y a de la justice et il faut laisser faire son travail. Lui, moi, je le comprends comme ça. Si c'est ça, il a voulu rendre service sans se rendre compte, que c'était sous le coup, de la loi.
Un joueur du Real Madrid ne devrait pas faire ça, en fait. Ne devrait même pas se mêler de ce genre d'histoire.
Ça lui a coûté cher, quand même.
On voit pas Sergio Ramos ou Cristiano Ronaldo à l'époque se mêler de ce genre d'histoire.
Yoro, vous qui avez un regard, peut-être avec un peu plus de recul sur ça, on parlait de Lucas Hernandez qui s'est présenté à la justice hier en Espagne, justement. L'histoire, elle est compliquée parce que c'est des violences conjugales, certes, mais avec une une femme avec qui finalement il s'est marié, ouais, avec qui il a un enfant. Donc
ils ont voyagé ensemble. Non, 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 non. L'a condamné. Hein.
Bien sûr, mais il l'a pas condamné.
C'est,
elle,
ça, c'est beaucoup. Ça. Vous allez voir qu'il va revenir en équipe de France s'il est pas en prison, et ça passera comme une lettre à la poste.
Bah, en tout cas, il joue ce soir théoriquement avec le Bayern. Bon, alors on a une histoire beaucoup plus horrible, c'est celle de Benjamin Mendy. Lui, il est en prison et c'est accusé beau, là, de viol. Oui, du côté de Manchester. Est-ce que ça peut salir certains joueurs, et par exemple Karim Benzema, ou finalement sa rédemption un peu en bleu et son incroyable talent avec le Real permet de...
Moi, je pense que ça peut pas salir Karim Benzema, et puis mentalement c'est un joueur très fort, donc ça peut pas l'atteindre. Il a traversé, il a vu pire. D'être écarté de la sorte, oui. Tu perds la Coupe du Monde, etc.
Il a déjà
peut-être
payé.
Au-delà de ce que ça devait, mais moi, je suis
au-delà de
Dominique.
Ce que dira la justice d'ailleurs peut-être.
Il a déjà payé, parce que c'est quand même six années de perdu en équipe de France. Il pouvait battre tous les records, gagner la Coupe du Monde, etc. Est-ce qu'il va la gagner dans un an? On ne sait pas. Donc, et je suis sûr, s'il était là en 2018, il l'aurait soulevé. Donc il a déjà payé pour moi.
Franchement, sa responsabilité elle est minime. Exactement. Encore une fois, c'est pas bien. Il a pas à se mêler de ce genre de trucs.
Bon, déjà, on va attendre de voir ce que dit la justice.
Voilà, c'est peut-être qu'il non, sera, mais déjà, peut-être qu'il sera
il acquitté, aura, relaxé, voilà, etc.
Mais même s'il est impliqué, parce qu'on saura jamais, il y a un verdict comme le dit Nabil, mais bon, on connaîtra jamais on sait jamais. Sa responsabilité elle est pas dingue, même s'il faut pas tremper dans ce genre d'histoire, quoi. C'est, encore une fois, il a pas.
Non, mais il a rien.
Nabil, est-ce que Mathieu Valbuena, finalement, en étant victime de toute façon dans cette histoire, il n'est pas aussi victime dans tout ça, parce que, alors certes, il n'était pas du tout sur la même dynamique au point de vue de sa carrière. Mais maintenant, il joue à Moscou. Mais on a l'impression que lui, par contre,
je crois qu'il l'a dit dans ses déclarations.
Il a été dépassé moralement aussi.
Ouais, je crois qu'il l'a un peu dit dans ses déclarations. S'il avait su que Benzema était déjà impliqué même à un niveau mineur ou annexe, il n'aurait pas porté plainte. Donc je pense qu'il a été dépassé par tout ça, Mathieu.
Oui,
Mathieu,
je te dis, on n'a pas à être victime d'un chantage de gens qui veulent.
Non, mais évidemment.
Parce qu'ils trouvent quelque chose dans votre téléphone et qu'ils veulent vous faire payer. Quoi. Évidemment. Donc, il a bien fait de porter plainte quand même. On ne peut pas lui reprocher ça.
Évidemment, mais
peut pas se reprocher.
Après, non, mais lui, c'est ce qu'il a. Oui, c'est ce qu'il a dit. Il a dit si j'avais su que. C'est vrai que ça a pris des proportions. Bah, c'est une affaire sociétale, nationale, récupérée également par des politiques.
Politique, on s'en
souvient. Ça, il faut absolument pas l'oublier. Mais moi, je suis d'accord avec vous sur Valbuena. C'est quelqu'un qui a perdu beaucoup aussi dans cette histoire. Moralement, ça n'a pas dû être simple pour lui.
Pour lui, c'est important.
Et le milieu du foot, il est difficile. Tu le sais très bien, Dominique. Sûr. Il peut être vu comme celui. Finalement, j'aime pas ce mot-là, mais socialement,
mais
tu peux être
vite mort. Qui a payé entre Glasman et Tapie sur la corruption de Valenciennes-Marseille en 93? Qui a payé, à votre avis? Tout le monde le sait, Glasman n'est plus rien. Donc, et Tapie, il vient d'être enterré en héros.
Il y avait parfois une forme de loi du silence, surtout dans ce genre d'histoire. Vous savez, les histoires de sextape dans le football, c'est quelque chose qui est assez.
C'était une spécialité.
Assez fréquent.
De la part de maître chanteur.
Voilà, exactement. Et écoutez, on verra.
Et le procès se poursuivra à Versailles jusqu'à demain soir, voire jusqu'à vendredi. Pour terminer, nous vous rappelons les résultats de la soirée avec Lille qui a fait un match nul face au FC Séville. Malheureusement, il aurait fallu l'emporter, n'est-ce pas, Shérif?
Ça aurait été mieux. Ils sont encore en vie. On va dire qu'ils sont encore en vie.
Ils sont encore en vie, c'est ce qu'ils ont souligné en fin de match. Le prochain match se jouera à Séville et là, ça sera important. Signalons aussi que Cristiano Ronaldo a marqué un beau but de la tête et qui a sauvé la victoire à Old Trafford.
Bah, Messi a marqué un doublé hier.
Exactement.
Ça ne s'arrêtera jamais.
Et puis le Barça justement, qui n'est plus celui de Messi, mais le Barça a remporté sa première victoire dans la compétition grâce à un but de Gérard Piqué. Et c'est la fin de cette soirée Ligue des Champions sur RFI. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci David Lortolari.
Merci Annie.
Et merci Shérif Guémour. Merci aussi
merci
à David Finzel.
Bonsoir.
Et à Laurent Salerno. Bonne nuit à tous et à demain.